Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur cette libre antenne qui vous accueille tous les soirs sur Europe 1, y compris le week-end. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin, 2h de liberté pour aborder tous les sujets qui vous préoccupent. Vos problèmes de couple, votre difficulté à avoir un enfant, vos parcours d'adoption, vos chagrins d'amour, vos rapports compliqués avec votre entourage, le stress que vous n'arrivez pas à gérer, le manque de confiance, un deuil que vous n'arrivez pas à faire, tout ce qui bloque, tout ce qui fait mal, tout ce qui empêche d'avancer dans la vie comme vous aimeriez. Sentez-vous libre de venir parler de tout. Il y a aussi des sujets que nous avons peu abordés ici, comme par exemple les familles XXL, les mères porteuses, les retrouvailles exceptionnelles après des années de silence, les maladies graves que vous avez réussi à surmonter, les thérapies nouvelles que vous avez découvertes et qui vous ont fait du bien. Si tout cela vous concerne et vous inspire, appelez-nous ce soir au 39-21. Cindy et Nicolas sont prêts à recevoir vos appels et à vous guider jusqu'à moi, 39-21. Vous savez que vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS pour réagir à ce qui se dit à l'antenne, apporter un témoignage, un soutien, un sourire, ça fait du bien. Et dans ce cas, vous faites le 739-21, suivi du mot nuit et de votre message que je transmettrai. C'est Julien qui réalise notre émission et si vous êtes prêts, on commence.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et on commence avec l'appel de Sarah. Bonsoir à vous, Sarah.
Bonsoir, Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors, je parlais dans mon intro des deuils et je crois que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement.
Oui, tout à fait. J'entends souvent parler de la mort et du deuil dans votre émission. Et effectivement, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup et sur lequel je travaille parce que je partage vraiment votre point de vue sur le fait que la mort, enfin, notre société... On a vraiment un déni de la mort dans notre société, ce qui rend finalement le sujet compliqué à aborder.
Encore plus difficile quand ça nous arrive.
Exactement, ouais. Avec son entourage, avec la société au sens large. Et de ce fait, j'ai créé un média en fait qui aborde le sujet de la mort, parce qu'en fait ça n'existait pas. Et je me suis dit, mais c'est fou, on a des...
Oui, vous avez raison, c'est vrai que ça n'existe
pas. Des médias pour tout, des sites sur tout, la naissance, la retraite, les danses, etc. Et finalement, la mort, il n'y en avait pas, alors que c'est un des événements de la vie avec la naissance qu'on vivra tous. Et je trouvais que c'était un trou béant, enfin, et qu'il fallait absolument combler ce vide et apporter finalement de l'information et aussi de pouvoir libérer la parole à travers des articles, mais aussi très vite, en fait, j'ai voulu qu'on se retrouve en fait au café pour en parler. Et donc, j'ai créé les apéros de la mort.
J'aime beaucoup la démarche. C'est vrai que c'est audacieux et c'est extrêmement important parce que, comme vous dites, ça n'existe pas, quoi. On est toujours dans une espèce de tabou. Où on est seul, il y a beaucoup de maladresse aussi autour de la mort. Quand souvent les gens me disent « quelqu'un est mort près de moi et je ne sais pas quoi dire ».
C'est ça. En fait, on a vraiment perdu le mode d'emploi de la mort. On a finalement délégué nos morts. Maintenant, on meurt à l'hôpital, on ne meurt plus chez soi, nos morts ne sont plus veillés. On les a délégués aussi aux pompes funèbres. Et de ce fait, avec tout ça, j'ai l'impression On est complètement tétanisé, en fait. On ne sait plus du tout comment se comporter, quoi faire, quel geste faire.
Et on se prive du premier pas du processus de deuil en faisant ça, en fait.
Exactement, ouais. Exactement. Alors après, on peut se le réapproprier à travers les rites funéraires et à travers l'organisation des obsèques. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on est très bousculé, donc ça va très vite. Et parfois, c'est là que ça peut rendre les deuils difficiles.
Alors, les apéros de la mort, comment est-ce qu'on fait ça pour rendre ça attractif? Comment est-ce qu'on fait?
C'est tout simplement en fait un moment de rencontre pour toute personne, j'ai déjà envie de dire, pour tout mortel conscient de sa finitude et qui a envie d'en parler. Mm-hmm. Alors, c'est une invitation à se rendre au café où on a beaucoup fait ça en visio pendant la crise sanitaire. Et toute personne qui souhaite parler de la mort, de son parcours de deuil ou de sa propre mort, de ses angoisses par rapport à la mort, il y a tout type de sujet qui peut être abordé, vient. Et en fait, c'est vraiment une discussion à bâton rompu, il n'y a pas de thème imposé. Euh, C'est des apéros que je co-anime avec une coach spécialiste de la question du deuil, ce qui me semble important parce que bon, moi-même, je me suis formée à la question du deuil, mais on a quand même... La majorité des personnes qui viennent sont des personnes qui ont vécu un deuil, parfois récent. Mm-hmm. Ça va être des parents qui ont perdu leur enfant, et parfois 3 mois avant, ou des jeunes veuves, des personnes qui viennent suite au suicide d'un proche.
Donc c'est très douloureux, voilà, oui. Il faut savoir les accompagner.
Exactement, je pense que même si ce n'est pas un groupe de parole à visée thérapeutique, c'est quand même important, de, même nous, pour se protéger aussi, de ne voilà, pas être trop affecté aussi, d'avoir une capacité à prendre aussi un peu de recul. C'est des discussions pendant 2 heures, mais finalement, c'est extrêmement fluide, en fait. Les gens viennent déposer, je dirais surtout, ce qui leur fait du bien, c'est de parler de leur mort, de l'évoquer. Sans avoir besoin de protéger la personne qui est en face, en fait, puisque on est entre inconnus et il n'y a pas de filtre, en fait, et parce que tout le monde est là pour, on sait qu'on est là pour parler de ça, donc c'est vraiment une parole libérée et qui fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que ce que je ressens à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est vraiment libérateur que d'avoir cet espace de parole où on peut évoquer notre mort et notre parcours de deuil.
Vous avez des gens de quel âge à quel âge qui viennent en moyenne ?
Ça va de 20-25 ans à 75 ans, je dirais.
Et donc, concrètement, vous avez organisé ça dans un café parisien au départ, c'est ça ?
Alors, pour l'instant, on a organisé ça dans un café à Paris. Et puis, en fait, là, comme on veut que ce soit un mouvement qui SM en France, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices qui sont en train de porter les apéros de la mort. Donc là, il y en a à Cambrai, organisé avec les petits frères des pauvres. Il y en a à Metz, côté de Metz. Il y en a qui vont voir le jour, là, donc prochainement, à Marseille, à Toulouse, dans différentes villes, peut-être à La Réunion. Donc voilà, nous, en fait, Happy End, donc le site que j'ai créé et les apéros qu'on organise, accompagnent en fait les futurs ambassadeurs et ambassadrices des apéros en France. Et récemment, on a également développé des groupes, en fait, qui permettent des réunions entre pairs pour les veuves, qui s'appellent les petites veuveries entre amis. Et là, pour le coup, ce ne sont que des veuves qui se retrouvent pour parler entre elles, et c'est en visio. Mm-hmm. Et on a aussi créé les orphelinades pour les jeunes adultes orphelins. Parce que pour le coup, je me suis rendu compte aussi que c'était ils étaient encore plus isolés dans le sens où ils avaient l'impression, en fait, comme il n'y a aucun espace pour eux, enfin, à part s'il y a une ou deux associations qui se sont spécialisées dans leur accompagnement, mais sinon, en fait, ces orphelins, d'ailleurs, quand ils sont venus, ils ont dit, mais c'est vraiment un espace comme ça que je cherchais, parce que j'ai cherché très vite après la mort de mon père, de ma mère ou de mes deux parents, et je n'ai pas trouvé.
Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a encore un vrai manque, hein. C'est une évidence.
Il y a un vrai manque, voilà, et on a également créé, et ça, vous en parlez parfois dans votre émission, le Café des Signes, pour que les gens puissent parler aussi, parce que ça, c'est doublement tabou, c'est la mort, mais aussi les signes qu'on leur reçoit de ses défunts. Oui. Et beaucoup de gens nous écrivaient à ce sujet, et on s'est dit, en fait, il faut créer un espace de parole juste là-dessus.
Oui, bien sûr, pour ceux qui n'osent pas et qui ont peur qu'on les traite de fous.
C'est ça, c'est ça. Donc là, d'ailleurs, il a affiché complet très, très vite.
Ah, oui.
Et dans 2 heures, c'était complet, et voilà, et on va vivre cette première expérience prochainement.
Est-ce que ça coûte quelque chose aux gens qui viennent ou c'est juste le café qui est...
Non, c'est vraiment gratuit. Enfin, c'est gratuit en visio, c'est gratuit au café. C'est juste que la personne prend en charge ses consommations.
Oui, ça c'est normal.
Voilà, mais sinon, non, c'est vraiment un espace de parole gratuit.
Ah, je trouve ça formidable. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, quelqu'un qui vous a particulièrement touché dans cette aventure ou aidé, ou je ne sais pas, quelque chose, quelqu'un de marquant ?
Oui, en fait, on a des habitués qui viennent aux différents, enfin, plusieurs fois aux apéros.
À quel rythme ils sont ces apéros ?
Tous les mois et demi, 2 mois.
D'accord.
Pendant le confinement, c'était plus régulier, mais là, pour tous les mois et demi, 2 mois. Et en fait, il y a une femme qui est venue et qui avait perdu sa fille de 15 ans, qui était polyhandicapée et voilà, qui était vraiment très mal. Et très, vraiment mal. Et, elle était suivie par un psy, elle était aussi dans un groupe de parole, mais voilà, elle avait été attirée par les apéros, c'était en visio, c'était pas en confinement. Et elle souffrait d'ailleurs beaucoup de que le cimetière soit fermé, qu'elle puisse pas aller se recueillir sur la tombe de sa fille, enfin voilà. Et puis elle est revenue, Et ça lui faisait du bien de venir. Et la dernière fois, en fait, avec Sophie, avec qui j'anime les apéros, en fait, elle était là, mais son visage avait changé. Elle était plus lumineuse, elle souriait et elle nous disait, voilà, elle nous disait que ça allait mieux et que voilà, elle avait commencé à entreprendre des actions pour reprendre une vie professionnelle. Et ça nous a fait super plaisir, en fait, parce qu'elle nous inquiétait, quoi. Je veux dire, on se disait, mais comment elle va faire? Comment elle va? Où est-ce qu'elle va puiser ses ressources?
Chez vous, visiblement.
Bah, pas que chez nous, hein. Je pense que c'est vraiment une combinaison d'actions.
C'est un plus, mais c'est quand même un plus important. Elle est dans la reconstruction maintenant, enfin.
Exactement, elle est dans la reconstruction. Mmh. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de la voir évoluer, parce que c'est vrai que dans les apéros, bah, c'est pas, en fait, comme c'est des moments, enfin, c'est pas des groupes de parole pour lesquels on s'inscrit dans la durée, on n'a pas toujours des personnes qui reviennent. Et là, ça faisait vraiment plaisir de voir. Et ça, on l'entend, par contre, je veux dire, des personnes en deuil font part de leur reconstruction, du sens aussi qu'ils ont trouvé dans la tristesse, dans la douleur, le fait de se rapprocher parfois aussi d'aller parfois plus à leur priorité, à l'essence nécessaire dans leur vie. Et du coup, c'est des gens qui ont moins de temps à perdre, finalement, qui ont pris conscience de la préciosité de la vie. Et voilà, et à chaque fois, les apéros, c'est aussi des vraies leçons de vie, parce que finalement, on se rend compte aussi, ça nous met aussi en pleine face à chaque fois le fait que la vie est extrêmement fragile et qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'il faut se faire être dans le bonheur, quoi. Et fait, ça, on sort de là, on se sent extrêmement vivant.
Et vous me disiez tout à l'heure, on parlait d'orphelinade.
Ouais, les orphelinades. Ouais.
Et en même temps, est-ce que vous avez remarqué que pour les parents qui ont perdu un enfant, il n'y a pas de nom?
Exactement.
Ça n'existe pas. C'est tellement tabou que ça n'existe pas.
C'est ça. Alors, il y a plusieurs associations qui portent le projet de faire passer le terme parent-ange comme pour porter le nom de parent endeuillé. Mm-hmm. Mais ça fait pas l'unanimité. Mais en tout cas, je sais que voilà, ça fait partie des combats de certaines associations.
Et que là aussi, effectivement, il y a... c'est important de mettre des mots sur tout. Et pourquoi il n'y en aurait pas sur cette situation-là, quoi? Aussi douloureuse soit-elle, il faut qu'il y ait des mots là-dessus. Alors, je trouve ça vraiment extraordinaire ce que vous faites, Sarah. Vraiment, bravo.
Ben, merci, Sabine.
Comment est-ce qu'on fait pour se connecter à vous? Quels sont les différentes
chemins? Alors, il y a le site internet www.happyend.life.
Alors, Happy End, je vais l'appeler, c'est donc ouais. Happy en anglais, H-A-2-P-Y.
Oui.
End, c'est la fin, E-N-D.
E-N-D, ouais.
H-A-2-P-Y-E-N-D.
Point life.
Live?
Life.
L-I-F-E.
Oui, exactement.
D'accord, point life, L-I-F-E.
Et là, si on veut s'inscrire à un apéro ou à une petite veuverie, en fait, il faut aller dans la rubrique apéro, enfin événement. Et là, vous pouvez vous inscrire en ligne. Voilà, et puis sinon, il y a sur Instagram ou sur Facebook.
Quel est le nom de votre page Facebook?
Alors, sur Facebook, c'est Tous une Happy End.
Tous une Happy End.
Oui, exactement.
Alors, ce que je ferais, comme j'ai une page Facebook qui s'appelle Sabine Marin Public, c'est que je me permettrai de relayer ces informations sur ma page dès demain, si
Super.
Vous voulez bien.
Bah, très bien, bah, je le ferai, Sabine, merci.
Pour que les auditeurs qui ont envie de prendre contact avec vous puissent vous trouver facilement, parce que vraiment, si ça pouvait exister partout, ça serait une telle aide.
Oui, exactement. Bah, écoutez, j'espère que certains auditeurs auditrices peut-être m'appelleront pour les porter en France.
Je le souhaite du fond du cœur, Sarah, vraiment. Bravo pour cette initiative.
Et merci
d'avoir partagé avec nous ce soir.
Merci, au revoir.
Au revoir, Sarah.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et j'accueille Anne maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Anne.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
C'est un petit peu difficile de passer après ce qu'on vient d'entendre.
Pourquoi ?
Comme le sujet, c'est important et c'était
c'est formidable,
très intéressant.
C'est formidable ce qu'elle a mis en place, vraiment.
Oui, je trouve.
J'espère que ça va se relayer dans toute la France.
On est tous concernés.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Anne?
Alors, sinon, moi, je venais vous parler de quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas d'avoir à vous parler. C'est d'un début de mise au placard.
Ah.
Alors, je m'explique et je vais vous expliquer pourquoi je ne m'y attendais vraiment pas.
Oui.
Je suis de formation, je suis médecin pédiatre.
Mmh.
J'ai pris ma retraite il y a un an et demi. D'une part parce que j'avais l'âge, d'autre part parce que j'étais épuisée par des années où j'ai fait des gardes et des gardes et des semaines de 70, 80, 90 heures.
J'imagine, oui.
Avec des gardes de maternité, entre autres. Donc, c'est des gardes qui sont, enfin, des gardes ou des astreintes qui sont parfois très lourdes, parfois beaucoup moins. C'est absolument imprévisible. Mmh. Et puis, je me suis retrouvée très démunie avec l'apparition du Covid, parce que paradoxalement, on avait l'impression qu'on ne servait plus à rien.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que
j'étais déjà en retraite quand ça a commencé.
Non.
Quasiment, vous alliez la prendre, quoi.
Quasiment. Enfin, je l'ai pris dans la foulée. J'hésitais à la prendre dans ces périodes-là, mais j'avoue que les 6 derniers mois ont été extrêmement difficiles, justement, parce qu'on avait à peu près autant de consultations que l'année où je me suis installée. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où j'avais 2, 3, 4 consultations. Les gens avaient la trouille, ils ne sortaient pas. Ils venaient pas pour les rendez-vous systématiques, ils ne venaient pas pour les vaccins, ils avaient la trouille.
Alors ça, c'est vraiment un côté dont on a peu parlé, effectivement. Ouais.
Ils avaient vraiment très, très peur. Alors, j'ai fait un petit peu de visio, ce qui effectivement était intéressant dans ce contexte-là. J'estime qu'en pédiatrie, c'est une très mauvaise solution.
C'est compliqué pour un bébé ou un enfant, j'imagine. Oui,
parce qu'on ne peut pas l'écouter, on le voit quand même beaucoup moins bien.
Bien sûr.
D'ailleurs, on ne faisait pas les bébés quasiment, c'était beaucoup plus. Alors, c'était en temps des éruptions, mais c'est pareil, c'est pas très évident. Non, c'était vraiment une période qui m'a semblé très lourde. Et pour essayer d'être plus au service, j'ai morcelé mes vacances en étant là une semaine sur deux, ce qui fait qu'en fait, je ne me suis pas du tout reposée pendant l'été, alors que je m'étais donnée à fond en période d'hiver, sans prendre de vacances, parce que je terminais mon service à la maternité. Enfin, ça a vraiment été une période très, très difficile. Et donc, c'est vrai qu'en fin d'année 2020, je me suis arrêtée et j'ai dormi 20 heures sur 24 quasiment pendant 3 mois.
Oui, vous êtes l'exemple criant des soignants qui ne prennent pas assez soin d'eux.
Oui, c'est-à-dire que ça faisait un certain nombre d'années que j'étais plus ou moins en burn-out et que je soignais mon burn-out en faisant plus.
Ah oui. Et oui,
c'est souvent le cas. Hein. Et puis ensuite, j'ai plus supporté d'être là. J'ai à nouveau pas supporté de ne rien faire, alors que cette épidémie était quand même assez impressionnante. Mmh. Donc, pendant un temps, je me suis mise au service des vaccinations. Alors, c'était bien, mais en même temps, on était remplaçable, interchangeable. On était nombreux à vouloir le faire, parce qu'en plus, ça payait bien. Donc, il y en avait énormément d'étudiants qui voulaient le faire.
Mmh.
Et puis, à cette occasion-là, j'ai rencontré une femme très sympathique qui m'a parlé d'un institut où ils s'occupaient d'enfants handicapés, enfin d'un plateau où ils avaient à la fois ce qu'on appelle un IEM et un CESAD. Le CESAD, c'est un endroit où on centralise un petit peu un certain nombre de soins qui sont donnés à des enfants qui restent chez eux et qui sont en scolarité scolarisés en classe normale, même s'ils ont des aides. Et puis, un IEM, c'est un endroit où les enfants sont, ou pour la journée ou pour la semaine, avec des soins thérapeutiques sur place et une école adaptée à ce qu'ils peuvent faire sur place.
Mmh.
Or, ces deux activités manquaient de médecins depuis 6 mois pour l'un et depuis 18 mois pour l'autre.
Oui.
Donc, je me suis dit que là, au moins, je pourrais être utile à un endroit où je n'étais pas interchangeable et remplaçable. Et donc, j'ai intégré cet établissement en juin.
Mais vous alliez comment pendant ce temps-là ?
Je ne me posais pas la question, donc je ne sais pas.
Mais oui, c'est ça qui m'embête.
Et oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé à ne pas faire plus que 50%.
D'accord, c'est quand même une petite barrière de sécurité.
Non.
Vous connaissez, ce que je vous entends, 50%, ça dévierait à 70, voire 90.
C'est-à-dire que 50%, j'ai fait un nombre d'heures complémentaires qui était assez sidérant.
Mmh.
Avant qu'on me dise que, de toute manière, j'avais soi-disant pas le droit, parce que quand j'ai regardé les textes, c'est pas très exact. Enfin bon, bref, on m'avait dit que j'avais pas le droit de faire plus que 10% en heures complémentaires. Donc, je suis passée à 70%, et même là, je faisais encore énormément d'heures complémentaires.
Mmh.
Et puis, au début, tout allait bien, tout était très bien, c'était parfait, tout le monde disait que c'était bien.
Qu'est-ce que vous faisiez concrètement tous les jours ?
je faisais 3 jours, enfin moi j'avais préféré faire 3 jours plus longs, c'est-à-dire que j'étais présente 3 jours par semaine pendant 9 heures.
Mais qu'est-ce que vous faisiez avec les enfants ?
Alors, d'une part j'examinais beaucoup plus d'ailleurs du travail sur les dossiers,
oui.
Du travail avec les personnes qui s'en occupent, que ce soit les soignants ou même on avait des réunions aussi avec le personnel éducatif. Pas les professeurs, mais le personnel éducatif et les soignants. Des réunions avec les responsables de service pour voir un petit peu quel était le projet pour les enfants. Et puis un certain nombre de consultations, mais petit à petit, pour essayer petit à petit de reprendre les dossiers et de les remettre à jour.
D'accord, donc vous apportez votre expertise principalement.
Oui. Alors j'ai apporté mon expertise et ça a été très bien tant que je me suis contentée de faire ce qu'on me demandait de faire. Gentiment, de signer les papiers qu'on me demandait de signer, les certificats qu'on me demandait, de voir les enfants qu'on me demandait. Mais le Covid, il est toujours là. Et j'ai osé vouloir m'en mêler dans la mesure où j'étais le seul médecin sur place.
Ah, ça veut dire quoi, m'en mêler ?
Ben, c'est-à-dire donner des conseils de temps en temps, voir un petit peu ce qu'il fallait faire en prévention, aussi bien pour les enfants que pour le personnel. J'avais proposé au mois de juin que pour la rentrée, éventuellement, on puisse proposer une deuxième dose pour les soignants qu'ils voulaient, mais ça n'a pas pu se mettre en place. Enfin, il y a eu des quiproquos. Le chef de pôle s'est pas souvenu, enfin, m'a dit qu'il ne s'était pas souvenu que je l'avais proposé, donc il a proposé autre chose, y compris avec une lettre qu'il a envoyée, enfin un mail qu'il a envoyé 2 jours après avoir reçu le mien. Donc, bon, voilà, je suis un peu étonnée, mais enfin, je veux bien le croire quand il dit que.
Vous pensez qu'il y a la mauvaise foi derrière tout ça, quoi.
Oui, il y avait déjà des choses, mais bon, je l'avais pas senti. En plus, le chef de pôle, il n'est pas sur place. Et avec la directrice sur place, ça avait l'air de très bien se passer. Ça avait l'air même tellement bien se passer que j'avais l'impression qu'il y avait éventuellement une amitié qui pouvait se nouer. Depuis fin novembre, j'ai complètement déchanté. J'ai d'abord reçu un SMS que j'ai pas compris. Alors j'ai essayé de faire comme si de rien n'était.
De la part de qui ?
Pardon ?
De la part de qui ce SMS ?
De la part de la directrice, de la sous-directrice sur place.
De cette femme que vous auriez pu considérer comme une amie ?
Oui.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous disait en substance ?
Oh, ben, elle me disait qu'il fallait que j'apprenne à lever le pied. Mais alors que j'étais en train de blaguer sur quelque chose qui se passait ce jour-là, où elle était en train de travailler, alors que c'était le jour de c'était un dimanche où on fêtait, c'était la journée nationale non pas du surmenage, mais une histoire comme ça. Et donc j'ai voulu blaguer là-dessus et je me suis fait dire qu'il fallait que je lève le pied. J'ai pas compris sa réponse.
Mais pourquoi vous l'avez mal pris ? Parce que
je lui avais écrit, il n'y avait aucun rapport.
C'est pas méchant de dire à quelqu'un de lever le pied, c'est pas une insulte.
Ça dépend de la manière dont c'est tourné.
Ça peut dépendre de la manière dont on interprète aussi.
C'était une réponse, disons. Enfin bon, de toute manière, j'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis dit que j'avais pas dû comprendre, et puis voilà quoi. Et puis petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait, les réunions qui avaient lieu par téléphone ou autre avec l'agence régionale de santé, en fait, j'en faisais pas partie, j'y étais pas confiée. Quand j'ai osé proposer fin décembre. Quelques mesures éventuellement pour la rentrée, parce qu'on avait quand même la vague Omicron qui arrivait. Et je me suis aperçue le jour de la rentrée qu'on avait et du personnel qui ne voulait pas se faire tester, et des enfants qu'on ne pouvait pas tester, mais qui étaient des enfants qui ne pouvaient pas être testés, mais ne pouvaient pas non plus porter de masque, et étaient des enfants qui ne pouvaient pas comprendre non plus qu'il fallait garder des distances, et en général des enfants qui bavent, qui crachent.
Et oui, bien sûr.
J'ai osé proposer éventuellement que les personnes qui s'en occupaient directement puissent être un peu plus protégées.
Ce qui semble assez cohérent, assez logique.
Ben oui, mais vous comprenez, à l'ARS, ils ont répondu que la mesure, on n'était pas sûr que ça soit... Enfin, la réponse qu'on a eue en mai 2020 pour les masques normaux, c'est-à-dire, oh ben, on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose, c'est en discussion. Donc, ben, sur place, je me suis fait dire, ben, vous voyez, l'ARS n'en veut pas. Et puis, alors là, il m'avait été demandé, c'était plus moi qui l'avais proposé, de prendre en charge pour un certain nombre de personnes une vaccination de la 3e dose à la rentrée. Mais à toutes les tentatives de contact que j'ai essayé de prendre avec la directrice pour organiser ça pour la rentrée. Je me suis fait opposer soit une absence de réponse, soit à la fin, comme j'insistais un petit peu lourdement, c'est vrai, mais il me fallait une réponse quand même. Je me suis fait répondre que les autres avaient le droit à la déconnexion et donc que je ne pouvais pas me permettre d'envoyer un mail parce que je créerais une discrimination.
Ouais.
Je voyais pas comment le fait
quand même
de proposer
tout...
aux gens de s'inscrire pour un jour, de me dire d'abord s'ils en avaient encore besoin ou s'ils étaient tombés malades ou s'étaient fait vacciner pendant les vacances, et d'autre part de me dire quel était le jour le plus facile pour eux, créer une discrimination.
Non, mais au-delà de ça, j'entends moi plutôt qu'il y a un conflit plus sous-jacent,
oui.
Parce que c'est un
impression
que tout ce que
c'est,
vous,
c'est
ce que
là
vous
où
dites,
j'ai commencé vraiment à le comprendre.
Tout ce que vous dites, ça va pas, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est
pas
ce que vous dites le problème, c'est autre chose.
Que là, j'ai reçu une lettre me disant qu'ils envisageaient à mon égard une sanction disciplinaire. Alors voilà, je suis venue, alors que je suis à la retraite, je suis venue pour les dépanner, je suis en train de remettre à jour quand même un certain laps de temps où ils avaient accumulé beaucoup de retard. Et le remerciement que j'en ai, c'est restez à votre place, faites sagement votre travail, sinon, bof, sanction disciplinaire.
Alors Anne, est-ce qu'il n'est pas temps d'en comprendre qu'il serait peut-être temps de vous occuper de vous maintenant ?
Mais d'ailleurs, j'envisage de leur couper l'herbe sous le pied en leur remettant juste avant ma démission.
C'est pas leur couper l'herbe sous le pied, c'est vous donner priorité.
Oui, mais les deux.
Parce que
les deux aussi.
Je pense qu'il va être important de comprendre aussi d'où vient ce besoin d'être, qu'on ait besoin de vous tout le temps comme ça.
Non, ben ça a toujours été.
Pardon ?
Ça a toujours été.
C'est-à-dire
que je me suis rendu compte que c'était la seule chose qui me définissait, c'était mon travail.
Mais ça n'est pas la réalité, ça, c'est ce qu'on vous a fait croire.
Et je crois que ma directrice en a parfaitement pris conscience, donc elle sait très très bien où appuyer pour que ça passe mal.
Là, moi, ce que j'entends, c'est d'une grosse blessure d'humiliation qui est réactivée par ce comportement-là, de ces gens-là.
Tout à fait.
Qui vous humilient à chaque fois. Est-ce que vous savez d'où elle vient, cette blessure d'humiliation ?
Oui, de l'enfance. J'ai jamais eu vraiment ma place.
Qu'est-ce qu'on vous a fait subir ?
Rien, mais je passais toujours après les autres.
Après les autres, c'est-à-dire vous avez beaucoup de frères et sœurs ?
J'avais trois frères et sœurs plus grands. J'étais la dernière, mais j'étais la dernière aussi au niveau de mes cousins, au niveau de tout le monde. Et puis ma mère, pour pas mal de raisons, faisait des choses à l'extérieur. Elle travaillait pas. Elle avait pas un travail rémunéré, tout du moins pendant un certain temps. Mmh. Mais elle faisait des activités à l'extérieur. Et je passais encore après.
Mais vous avez l'impression que c'est vous qui passiez après.
Et c'était quelqu'un de formidable, donc je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit parce que tout le monde l'a trouvé formidable.
Oui, ça c'est toujours un problème. Quand on pense qu'on n'a pas le droit de dire ça parce que les autres pensent l'inverse. Quand vous dites « je passais en dernier », est-ce que c'est vraiment vous ou c'est tous les enfants qui passaient en...
Non, c'était moi. Au point que je me pose même des questions à la suite d'un certain nombre de choses, mais que j'ai analysées très récemment, de savoir si je suis vraiment la fille de mon père ou pas.
Oui, c'est vrai que ce genre de secret de famille peut expliquer des comportements différents de la part d'une maman, oui, c'est vrai.
Oui.
Elle est toujours là, votre maman ? Elle vit encore ?
Non,
ah,
non elle est décédée il y a 7 ans, elle avait juste 100 ans, donc elle est décédée.
Vous ne pourrez plus lui poser la question ?
Non. J'ai lancé une perche à Noël auprès de ma sœur aînée qui avait l'air de tomber des nues. Mais ma mère m'a parlé 2-3 ans avant de partir, elle m'a parlé tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, du fait que entre le parrain de mon frère et le couple du parrain de mon frère et son couple à elle, il aurait dû y avoir un échange et qu'ils auraient été beaucoup mieux, ils seraient beaucoup mieux entendus en étant intervertis.
Ah oui, et là vous avez entendu autre chose, vous, forcément.
Ah non, sur le moment j'ai rien entendu, je l'ai entendu il y a très peu de temps. Mmh. Il y a autre chose aussi qui aurait dû me faire tiquer en tant que médecin. Ma mère a eu un premier enfant sans problème. Ensuite, elle a fait une fausse couche. Elle a eu un deuxième enfant et elle a fait plein de fausses couches. Et elle a eu très, très, très difficilement son troisième enfant. Et puis, 3 ans et demi plus tard, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a dit « je fais un effort » et je suis arrivée comme ça sans qu'il se passe quoi que ce soit. Aucun souci. Or ça, en maternité, on blague souvent là-dessus en disant bah, « ça, c'est un changement de procréateur ».
Ah, oui.
Seulement ça, c'est pareil, j'y ai pensé qu'il y a quelques mois.
Malheureusement, ce ne sont que des suppositions.
Oui, tout à fait.
Et ça, il va falloir que vous appreniez à vivre
avec. J'ai aucun moyen d'avoir une preuve.
Oui, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant dans votre vie, c'est que vous voyez ce qui se passe là avec ce centre dans lequel vous êtes. C'est plutôt un cadeau de la vie, je trouve. Parce que ça va vous donner vraiment l'opportunité de vous poser et de comprendre que maintenant, il va falloir changer de comportement et ne plus croire que pour avoir de l'importance dans la vie des gens, il faut faire. Vous avez beaucoup confondu faire et être dans votre vie.
Oui, ça, je vous ai entendu le dire souvent.
Et oui. On a l'impression que vous n'estimez pas votre valeur parce que vous êtes quelqu'un de bien, mais parce que vous faites des choses bien. Et quand on vous dit que ce que vous faites, ça n'est pas apprécié, alors ça vous rend malade parce que vous avez l'impression que vous n'avez plus aucune valeur d'un coup.
Exactement.
Alors que ça n'est pas vrai du tout. Le jugement de ces gens-là, ça ne les concerne qu'eux, c'est eux qui jugent ça. Ça leur appartient, ça ne vous appartient pas.
Alors, si vous rajoutez que j'ai énormément de mal à créer des liens, donc j'ai très très peu d'amis.
Oui, parce que y a toujours ce problème de place. Vous n'osez pas prendre votre place. Vous pensez la mériter qu'en donnant tout le temps.
Mais je peux vous donner un autre exemple. Ma mère est donc venue habiter les 9 dernières années de sa vie à 500 mètres de chez moi parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin d'être près d'un de nous. Et pour son enterrement, moi je venais de faire un AVC. Donc, je ne conduisais pas et j'étais dans la voiture de mon frère. Mon frère, il est venu peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois à tout casser dans la ville où j'habite. Mais quand je lui ai dit le chemin qu'il fallait prendre pour en partir et aller un peu plus, enfin là où on devait aller, il a prétendu qu'il connaissait la route mieux que moi. Alors que c'était une route que j'utilisais 2 ou 3 fois par semaine pour aller travailler depuis plus de 15 ans.
Oui, on vous rabaisse systématiquement, quoi.
Et mes frères et sœurs ont pris son parti en plus. Ils m'ont dit que j'étais stupide de réagir.
Oui, oui, c'est un mode de fonctionnement qui a été finalement comme validé par tout le monde dans la famille.
Tout à fait.
Oui. Mais vous rendez compte ce que vous me dites là, vous avez fait un AVC, vous êtes, je pense, probablement encore dans une dépression. Votre corps vous parle, Anne. Quand est-ce que vous l'écoutez?
Jamais.
Eh oui, mais ça, vous savez très bien, on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais là, c'est tellement pas juste. Vous avez tellement pris soin des autres qu'il est urgent de prendre soin de vous maintenant, mais vraiment prendre soin de vous. C'est ça que votre corps vous dit. Et c'est pour ça que je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est bien. Il faut que ça s'arrête, cette collaboration.
Oui, je pense.
Vous n'avez pas besoin de faire.
Non, mais c'est vrai qu'au début, enfin vraiment, il y a des gens qui sont très sympas à l'endroit où je travaillais. C'était bien pour moi aussi, quoi.
Et vous savez, là où le bas blesse, je pense, c'est que vous espérez trop de reconnaissance. Le curseur est complètement dans le besoin.
Oui, sûrement.
Et quand vous serez réparé vous-même, vous pourrez faire ce genre de choses, mais en étant libre, en ayant envie de participer à des opérations, à donner des coups de main, des choses comme ça, mais pas en étant dans le besoin qu'on vous reconnaisse. Et là, c'est encore cette démarche-là qui vous fait faire ça, et forcément, ça fait mal quand on ne trouve pas la reconnaissance qu'on cherche. Parce que vous cherchez à réparer quelque chose avec la mauvaise... Vous n'êtes pas sur le bon terrain pour réparer ça, si vous voulez.
Oui, mais j'avoue que je ne m'attendais pas quand même à... En plus, je ne comprends pas... Je comprends d'autant moins leur attitude que... Je veux dire que des médecins, ils n'en trouveront pas d'autres. Parce que la preuve, ils ont mis 18 mois à en trouver un. Et vraiment, il y a X postes sur le marché. Et moi, je peux retrouver un travail en 2 clics de mon ordinateur, quoi.
Mais une fois de plus, peu importe. Peu,
moins
peu importe.
Oui, ben, non, non, mais
alors faites-le, justement. Oui. Peu importe leur comportement. Voilà, il peut y avoir de l'ingratitude, il peut y avoir de la maladresse, il peut y avoir de l'incompétence, il peut y avoir de la jalousie. Peu importe. Ce qui importe, c'est vous dans l'histoire. Est-ce que vous en faites de ça?
Parce que si je fais rien, je pense que je vais tourner en rond. En plus, j'ai une maison dont je ne me suis pas occupée pendant les 30 ans que j'y ai habité, donc il faut que je la vide,
que
je déménage. Mais je n'ai pas le courage, si je ne fais pas autre chose aussi pour me motiver, je n'ai pas le courage de le faire.
Anne, symboliquement, la maison, c'est nous, c'est notre prolongement.
Bah oui.
Donc quand vous dites « je ne me suis pas occupée de ma maison depuis plus de 30 ans », exactement.
Oui.
Et allez me dire que vous avez besoin d'autre chose, c'est encore une fuite. C'est pour ne pas le faire. Parce que si vous faites autre chose, vous n'aurez pas le temps ni l'énergie pour le faire, pour vous occuper.
Ça dépend. Si je travaille 10 heures par semaine, ça me laissera du temps
En êtes-vous capable?
C'est ce qui m'est proposé comme autre poste.
Êtes-vous capable de ne faire que 10 heures par semaine?
Je pense.
Il faudrait que ce soit comme un pacte avec vous-même, vraiment, parce que c'est devenu essentiel. C'est ce que votre corps vous dit. Une fois de plus, le corps ne ment pas. Écoutez-le.
Oui.
Écoutez-le. Est-ce que vous accepteriez d'être accompagné, d'être soigné par quelqu'un aussi ? Parce que quand on est médecin, c'est pas facile, je sais.
Ben, j'ai une amie qui m'a tellement poussée que... Et puis, il y a la médecine du travail. Ils se sont tout d'un coup rendus compte qu'ils avaient oublié de me faire voir par la médecine du travail. Et la médecine du travail, ils m'ont trouvé vraiment pas bien.
Ah, ben voilà.
Donc, je dois voir un médecin, parce que mon médecin traitant est parti à la retraite il y a quelque temps. Donc, j'en avais pris un autre et que je voyais jamais. Et donc, je viens de découvrir que maintenant, il n'exerce plus la médecine générale. Il fait simplement les interruptions médicales de grossesse. Donc là, je ne me sens plus vraiment concernée. À 67 ans, quand même.
Ce n'est pas l'idéal comme accompagnement, non, c'est sûr.
Donc, je suis arrivée à trouver, dans un rayon kilométrique relativement raisonnable, je suis arrivée à trouver un médecin qui acceptait de prendre des nouveaux patients.
Mais là, vous parlez d'un médecin généraliste.
Oui.
Moi, je vous parle d'une thérapeute.
Alors, une thérapeute, c'est sûr qu'il m'en faut aussi. Ça m'avait d'ailleurs été préconisé il y a 7 ans par mon médecin traitant.
Et oui.
Et j'avoue que, en vous écoutant un certain nombre de fois, je pense aussi que j'aurais besoin aussi d'hypnose pour être remontée.
Oui, pour sortir de ce trou noir là dans lequel vous êtes.
J'ai besoin de remonter avant ma naissance.
Ah, vous voulez faire... Oui, d'accord, je comprends. C'est ce qu'on appelle une régression pour essayer de retrouver des souvenirs enfouis.
Oui.
Des impressions.
Puis parce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à soigner. Parce que quand ma mère m'a dit, quand j'avais 50 ans, que de toute manière, elle s'était dit qu'elle ne ferait aucun effort, ça s'est sorti comme ça, je lui ai dit, je le savais.
Et oui, oui.
Donc je savais quelque part que j'avais été obligée de m'accrocher toute seule.
Et de toute façon, vous avez raison de dire que c'est là qu'il faut commencer à travailler, parce que ce soit vrai ou pas, c'est dans votre esprit en tout cas. Et donc c'est un filtre que vous avez posé et qui vous conditionne tout le reste.
Oui.
Donc une fois que vous aurez travaillé là-dessus, ce qu'il faudra aussi, c'est travailler sur l'acceptation de ce qui a été. Parce que ça a été comme ça et que vous ne pourrez pas le changer.
Oui, ça je sais. Et puis il y a eu d'autres choses encore quand j'étais petite. Ça ferait trop.
Mais en même temps, tout ça, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui a fait la femme formidable que vous avez été, que vous êtes encore. Une femme médecin, pédiatre, c'est pas rien quand même. C'est pas rien tout ça.
Ça dépend de qui.
Ah, alors de qui attendriez-vous aujourd'hui une reconnaissance ?
C'est-à-dire que quand, toujours à la même époque, au moment de, un peu avant le décès de ma mère, j'ai quand même proposé aussi des choses pour la soigner parce qu'elle n'allait pas bien à la fin quand même. À 100 ans, c'est un peu normal. Et elle était dépressive et mes frères et sœurs ne le voyaient pas. Et j'ai voulu la mettre sous antidépresseur. Et je me suis fait répondre par mon frère que j'étais que pédiatre.
Oui, donc c'est vraiment au sein de la famille là, qu'il y a un manque de reconnaissance qui vous fait mal encore.
Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez déjà osé les affronter, ces gens-là ? Vos frères et sœurs, en leur disant à quel point ça vous sentait blessé par leur comportement ?
Non.
Non. Oui. Donc tout ça, ça tourne à l'intérieur et puis ça macère et puis ça fait mal.
Quand je les affronte, comme l'autre jour, comme cette fois-là où j'ai essayé de dire que je connaissais le chemin parce que j'habitais là depuis longtemps, ils se sont tous ligués contre moi, donc c'est pas facile de les affronter.
Et pourtant, vous voyez, vu l'extérieur, c'est un non-événement, ça, c'est pas grand-chose. Mais comme ça appuie exactement là où vous avez mal...
Oui, puis ils le savent.
Et oui. Donc je crois qu'il faut un peu vous préserver de ces gens-là pendant quelques temps. Le temps de vous reconstruire, de vous réparer.
Ah ben, c'est sûr que de l'aîné de mes frères, de toute manière, en plus, il y a eu d'autres choses qui se sont produites au moment où on s'est partagé les affaires. Et de toute manière, j'ai dit que je voulais plus le voir. Pour le moment, je voulais plus avoir de nouvelles.
Non, je crois que le peu d'énergie qui vous reste, il faut vraiment que vous la dirigiez vers vous.
Oui.
Pour réparer tout ça. Vous ne parlez pas beaucoup de celui qui était votre père quand même ?
Il est décédé quand j'avais... D'abord, il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait 50 ans de plus que moi. Mmh. Il avait subi des choses difficiles. Ce qui fait qu'il faisait au moins 10 ans de plus que son âge. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été difficile. C'est-à-dire que je me souviens encore... Un jour où il m'a emmenée à l'école et où une de mes copines m'a dit « Ah, c'est ton grand-père » et où je n'ai pas osé dire non.
Ah oui, ça c'est difficile quand on est enfant.
Et
oui.
Puis il est décédé quand j'avais pas tout à fait 18 ans. après 10 ans de longue maladie, où en plus les médecins se sont complètement trompés sur ce qu'il avait pendant presque tout le temps.
Est-ce que vous vouliez déjà faire médecine à l'époque ?
Avant, oui.
Avant déjà, oui. Ouais. Est-ce que vous avez, avec ce filtre-là, de vous dire peut-être que ce n'était pas mon géniteur, est-ce que vous avez fait des observations physiques sur les ressemblances entre vos frères et sœurs et vous, entre si vous pouvez voir des photos de votre père à l'époque ?
Alors, on m'a toujours dit que je ressemblais de toute manière pas vraiment. Même à ma mère, j'y ressemble pas vraiment. Mais là, j'ai eu des preuves quand même, il n'y a pas de problème. Mais je leur ai jamais vraiment beaucoup ressemblé, mes frères et sœurs non plus. Ils ont tous les yeux bleus, moi je les ai pas.
Mmh. Et eux ressemblent à votre maman ou à votre papa ?
Les deux.
Les deux. Et vous trouvez que non ? Vous non ?
Moi, je trouve que j'ai hérité de son caractère sur beaucoup de choses. Mais ça, le caractère, c'est pas...
C'est pas forcément héréditaire, c'est une question d'éducation et de ce qu'on a vu et vécu. Ouais. Ouais.
J'ai essayé de récupérer des photos du parrain de mon frère, mais je suis pas arrivée à en récupérer.
Oui. Oui, il y aura effectivement, si vous en avez envie, une recherche possible à faire de ce côté-là. Mais de toute façon, quelle que soit la réponse, le vrai travail, ça va être l'acceptation.
Oui, ça va être de toute manière, il restera mon père quand même.
Bien sûr, évidemment. Et vous pouvez avoir, comme beaucoup de gens, avoir un géniteur et un père.
Hein. Oui. Et en plus, je pense que mes frères et sœurs étaient jaloux parce que j'étais la préférée de mon père.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ils me l'ont toujours dit tous.
Mais vous l'avez et ressenti puis, comme ça aussi ?
J'ai été la seule à avoir le droit de faire un certain nombre de choses. Et puis mon père s'est beaucoup tourné vers moi. À la fin, il m'appelait son bâton de vieillesse. Quand il a voulu essayer de décrire un petit peu tous les symptômes qu'il avait avant de rentrer à l'hôpital, alors que mon frère était déjà très avancé dans ses études de médecine et que moi je l'ai commencé à peine, c'est vers moi qu'il s'est tourné, enfin des choses comme ça.
Donc vous pensez
mon père n'a jamais été violent avec moi, alors qu'il a, par exemple, avec le frère juste au-dessus de moi, il a été très violent.
Ah. Ce qui pourrait vouloir dire que si ça n'était pas votre géniteur, il ne savait pas, alors.
Oui, peut-être. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'ai plusieurs fois constaté, c'est qu'effectivement, finalement, il y avait comme une espèce de surplus qui était... Enfin, ça m'est déjà arrivé de le constater en sachant sur d'autres familles, quoi.
J'ai pas compris ce que vous voulez dire par surplus.
J'ai déjà vu des familles où celui qui n'était pas le père mais qui ne le savait pas était encore plus attaché à l'enfant qui n'était pas de lui.
Ah d'accord. Peut-être qu'inconsciemment...
De façon très paradoxale.
Peut-être qu'inconsciemment ça joue. Parce que moi je suis persuadée qu'inconsciemment on sait ces choses-là. On le sent.
Oui.
On le sent. Et c'est... L'enfant l'a ancré en lui.
Étant petite... À un moment, je me souviens très bien, quand j'avais 6-7 ans, d'avoir eu des gros doutes sur le fait d'être l'enfant de ma famille. Mais on m'a répondu que c'était normal, qu'à cet âge-là, tous les enfants pensaient ça.
Oui, surtout quand ça se passe mal. C'est un peu l'échappatoire qu'on se crée en se disant, finalement, je viens pas de là, moi, c'est pas possible.
Oui, mais enfin, j'arrivais même pas à formuler dans ma tête que ça se passait pas bien. Pour moi, c'était normal.
Parce que vous n'aviez pas encore la comparaison.
Oui, puis parce que enfin, ma mère m'avait fait comprendre que j'avais pas le droit de pas aller bien, quoi.
Mais oui, mais si vous rendez compte.
Il fallait que je sois tout le temps souriante, tout le temps que j'aille bien, tout le temps que.
Il va être urgent que vous retiriez l'importance que vous avez accordée à tous ces gens-là, parce qu'ils ont façonné votre vie. Du coup, vous êtes devenu médecin, vous avez passé votre vie à vous occuper des autres 25 heures sur 24, pratiquement. Vous vous êtes complètement oublié.
C'était plus facile.
Je sais, oui, peut-être sur le moment, parce que c'est une sorte de fuite. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit plus facile sur la durée. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et réparer ça. Vous savez ce qu'on va faire, Anne ? On va continuer à se parler, mais juste après les informations, si vous le voulez bien.
D'accord.
Vous ne quittez pas, prenez un petit verre d'eau, respirez. Et,
oui.
je vous retrouve de l'autre côté des informations, d'accord ?
Merci.
Merci à vous, à tout de suite.
«
On est déjà lundi, certes techniquement, mais on peut aussi prendre le temps de se dire que nous sommes dans la nuit qui nous mène de dimanche à lundi. Prendre ce temps pour nous poser, pour nous parler, pour nous écouter. C'est ce que vous faites depuis 23h sur cette libre antenne et vous pouvez le faire encore jusqu'à 1h du matin puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Si vous avez envie de parler, de vous confier, vous faites le 39-21. Cindy et Nicolas sont là, ils attendent vos appels au standard. Pour réagir par SMS, c'est toujours le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Et je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Anne, est-ce que vous êtes là ?
Oui, bien sûr.
Alors, je vais résumer en quelques mots ce qu'on s'est dit avant les informations. Vous m'avez appelé au départ pour me dire que vous êtes médecin pédiatre jeune retraité, que vous étiez engagé parce que vous ne pouviez pas rester sans rien faire dans un centre pour enfants handicapés, et que vous avez l'impression, et ce qui m'a l'air d'être plus qu'une impression d'ailleurs, d'être rejeté, d'être mis à l'écart, et que vous l'avez très mal vécu. Ce qui nous a ramené à cette blessure d'humiliation dont on parlait, et ce sentiment que vous aviez l'impression que pour exister, il fallait faire tout le temps, et pas être simplement. Et du coup, vous m'avez raconté votre enfance en me disant que vous étiez la petite dernière d'une fratrie où on vous a un peu laissé en plan, avec en plus cette impression diffuse que votre père n'était pas vraiment votre père. C'est ça ?
Oui, oui.
Voilà, et que c'est pour vous, c'est que c'est une blessure qui est toujours ouverte et qui vous a probablement empêché de vous construire sereinement.
Oui.
Alors, quelqu'un m'a posé la question pendant les informations, c'est Marie qui envoie un petit SMS. Est-ce que vous ne pourrez pas faire un test génétique ?
Ben oui, mais... Enfin, si, je pourrais, mais... C'est encore quelque chose de compliqué, quoi. C'est pas encore tout à fait simple.
Dans quel
sens ? À l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait que je le fasse avec un de mes frères et sœurs, quoi.
Oui, oui. Il y en a aucun avec qui ce serait possible ?
Si, probablement.
Peut-être que ça vous enlèverait un poids de savoir, quand même.
Oui. Oui, mais en fait, c'est pas le plus important. Ça m'expliquerait simplement certaines attitudes, c'est tout.
Oui, c'est ce qu'on disait. Voilà, on en arrivait à se dire qu'une fois que ça ce sera réglé ou pas, de toute façon, c'est comme ça. Quoi qu'il se soit passé, vous ne pourrez traverser ça qu'en ne l'acceptant.
Oui, mais ça. Puis c'est pas le plus important pour moi. Ça m'expliquerait simplement certaines attitudes de ma mère, c'est tout.
Voilà. Mais ce sur quoi vous devriez travailler, c'est vraiment ce besoin de reconnaissance tout le temps des autres. Il faudrait que vous appreniez à vous aimer suffisamment vous-même pour ne pas attendre que les autres vous aiment et vous le disent.
Oui, d'ailleurs, c'est effectivement ce qui va le plus me coûter en quittant le centre. C'est les amitiés que j'avais pu commencer à nouer, mais qui n'ont pas pu suffisamment se créer pour continuer, quoi.
Et puis, quand on est pédiatre, qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée ? On absorbe l'amour des enfants.
Oui.
Parce qu'un enfant vous aime inconditionnellement.
Oui.
Ils ne vous jugent pas.
Les animaux aussi. C'est pour ça que je m'occupe aussi d'animaux.
Ah, qu'est-ce que vous faites pour les animaux ?
Ben, là, il me reste un chien. J'en ai eu jusqu'à 3 à un moment. Mmh. Et puis, dont le troisième qui est un recueil temporaire qui s'est un peu prolongé. Mmh. Et puis, j'ai beaucoup de chats aussi.
Mmh. Et oui, c'est la même démarche finalement. Vous n'avez pas du tout parlé de votre vie privée. Est-ce que vous avez construit une vie ?
Non.
Ben, je m'attendais à la réponse, mais bon. Et oui. Forcément. Vous avez construit une vie, mais pas une vie complète. C'est comme si vous aviez l'impression que vous ne méritiez pas, finalement, d'avoir une place.
Il n'y a pas que ça. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé, mais quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai été violée par quelqu'un de mon entourage.
Ah, vous vous en souvenez ou c'est une impression ?
Je me souviens du début seulement.
Du quoi ?
Je ne me souviens que du tout début. Mmh. Et... J'ai eu confirmation, on en a encore parlé au moment de Noël avec ma sœur, que ça a été de toute manière quelqu'un, enfin c'était le concierge de la résidence où j'étais, et apparemment il a abusé quasiment de toutes les petites filles qui étaient là.
Et personne n'a bougé à l'époque ?
Y compris de ma sœur, qu'il allait même, quand il, parce qu'apparemment, mais ça je ne m'en souviens pas, il a été employé plusieurs fois par mes parents pour des services quand il recevait du monde. Et il allait jusqu'à rejoindre ma sœur dans sa chambre.
Et à l'époque, est-ce qu'elle en a parlé ?
Elle n'en a pas parlé.
Et oui,
elle essayait de se réfugier dans la chambre de mes frères. Mais...
L'éternel problème de la peur et de la honte.
Oui, et elle m'a même dit que si elle n'en avait pas parlé, c'est parce qu'elle pensait que j'étais trop petite pour que ça puisse interférer avec moi. Alors que... d'une part, j'étais pas si petite que ça, la preuve, et d'autre part, j'allais grandir, quoi.
Vous étiez deux filles dans la famille, c'est ça ?
On était une fille, deux garçons, une fille.
Comment ça, deux garçons, une fille ? Non, parce que vous me parlez de votre sœur.
On était quatre. J'avais une sœur,
oui,
ensuite j'ai eu deux frères, et
oui.
Ensuite il y a eu moi.
D'accord. C'est quand même fou qu'elle n'en ait jamais parlé, même. Oui, elle n'a pas pensé qu'elle pourrait vous protéger en parlant, quoi.
Non, elle a pensé que j'étais trop petite pour avoir besoin
d'être protégée.
Oui,
mais elle n'a pas réfléchi que vous disiez que vous alliez grandir.
Oui.
Et que malheureusement, ce genre de prédateur, ils n'attendent pas forcément que l'enfant grandisse. Hein.
Oui.
Et donc, rien n'a jamais été fait sur ce terrain-là non plus. Il n'a jamais été ennuyé.
Non.
Aucune plainte déposée, aucune poursuite, rien.
Non.
Vous savez s'il vit en Corse, monsieur ?
Je ne sais pas, mais je ne pense pas, parce que s'il est de la génération de mes parents, et à peu près, je pense qu'il ne doit plus être vivant.
Alors moi qui parle souvent du millefeuille, dans la vie, vous en avez un sacré millefeuille. Là. Il va falloir enlever les couches une par une. Hein.
Oui, mais alors si vous voulez une couche de plus, le jour où à 55 ans peut-être, j'ai osé en parler à ma mère, parce que c'est la première fois que je lui en parlais, sa réaction, même si elle a essayé de se rattraper après, ça a été de me dire « Ah ben j'avais bien... » vu qu'il s'était passé quelque chose, mais j'ai cru que c'était avec ton frère.
Pas une réponse.
Oui.
C'est fou. Je suis en train de regarder les SMS. Quelqu'un qui me dit, Sabine, qu'est-ce que c'est une vie complète ? Parce que j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas construit de vie complète. Bah, pour moi, je pense qu'une vie complète, c'est une vie où on s'est réalisé dans tous les domaines où on avait envie de se réaliser. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de schéma type. Mais c'est vrai, globalement, on parle d'une vie complète quand on s'est réalisé sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et là, de ce que j'entends, vous n'avez pas construit de vie personnelle.
Tout à fait.
Est-ce que vous en auriez eu envie, vous ?
Oui.
Oui, donc forcément, là aussi, il y a une souffrance. Ça n'a pas été un choix, ça a été quelque chose que vous avez subi.
Bah, j'ai essayé d'en faire un choix après, mais...
Oui, c'est ça. Mais
c'est vrai que le garçon que j'ai aimé en premier, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a pris.
Oui, là aussi, décidément. Oui, c'est le même schéma qui se répète tout le temps. C'est-à-dire, vous avez zéro valeur, on vous piétine, on vous méprise, on vous rejette. Et à chaque fois, ça vous blesse terriblement. Mais prenez ce qui vous arrive en ce moment comme la chance d'arrêter ce cercle-là.
Oui, parce qu'à chaque fois, finalement, je me replie dans ma coquille, quoi.
Parce qu'à chaque fois, au lieu d'affronter ça, finalement, comme vous allez le faire maintenant, vous êtes parti en fuyant la tête dans le travail. On a besoin de moi, j'y vais, comme ça je réfléchis pas. Ok, j'ai bien compris que j'ai une dépression, mais j'ai pas envie de l'affronter, donc je fuis.
J'ai quand même subi. Les mots veulent dire quelque chose.
Et oui.
J'ai quand même vécu plusieurs psychothérapies.
Alors, c'est intéressant, pourquoi subi ?
Je sais pas. La première, c'était pas avec un psychothérapeute, mais elle m'a été imposée. On m'a dit qu'on allait voir un médecin pour s'occuper de mes problèmes de poids, et en fait, je me suis retrouvée devant quelqu'un qui m'a demandé si j'avais été abusée par mon père. Et là, j'avoue que c'était fini. Il pouvait me dire ce qu'il voulait après. J'étais fermée comme une huître.
C'est bizarre de vous imposer, une réponse comme ça.
J'avais aucun souvenir de l'abus que j'avais suivi par...
Non, et puis même, on n'impose pas une réponse. On peut poser une question ou amener sur une piste, mais on ne dit pas tout de suite est-ce que c'est votre père. Enfin, c'est un peu... C'est violent. Hein.
J'ai trouvé ça très violent, oui. Donc,
d'où le subi, oui, d'accord.
C'est pas la peine qu'il essaye de faire quoi que ce soit pour moi après. La deuxième fois, c'est parce que, à force de vouloir être en empathie avec les gens, j'en étais à me mettre comme une serpillière devant eux s'il le fallait pour essayer de gagner leur sympathie.
Et oui, voilà, vous l'avez bien compris.
Et la troisième fois, ça s'est arrêté parce que je pense qu'elle avait. Bon, elle m'a beaucoup aidée pendant tout un temps, mais à la fin, elle a fait une erreur que j'ai mis très, très, très longtemps à comprendre. Dans lequel elle a persisté alors que je lui disais que j'étais sûre que c'était pas ça. J'étais sûre qu'à l'époque, c'était pas que j'essayais de révéler à ma mère que j'avais été abusée. Je suis sûre que j'essayais de révéler à ma mère que j'avais besoin de pas toujours passer en dernier. Ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Non, puis l'un n'empêche pas l'autre. Une fois de plus, c'est le fameux millefeuille. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cette image. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On cumule.
Les signes dont on parlait, c'était beaucoup plus pour attirer l'attention de ma mère vers moi que pour lui dire quelque chose de précis à ce moment-là.
Oui. En tout cas, si je peux me permettre un conseil, effectivement, l'hypnose peut vous aider pour faire une régression, pour voir si des choses enfouies que vous avez forcément, que vous savez au niveau de vos cellules, reviennent ou pas. Mais moi, je travaillerai aussi avec vous comme sur la blessure d'humiliation qui est plus chez vous. Et je ne vous vois pas physiquement, mais je pense que vous êtes certainement quelqu'un d'assez j'allais presque dire rond, voire
oui, bah oui.
Voire très rond.
C'est une protection.
Et oui aussi, oui. C'est typiquement la morphologie de ceux qui ont cette blessure d'humiliation. C'est surtout...
Sauf que ça en rajoute.
C'est à la fois une façon de prendre de la place, quand on n'arrive pas à la trouver, on la prend inconsciemment, physiquement, et aussi bien sûr une armure. Ne me touchez
oui,
plus.
Oui, mais en même temps, ça provoque aussi des rejets.
Et oui, c'est toute la perversité du schéma qu'on n'a pas soigné. C'est pour ça que vraiment, ce qui vous arrive maintenant, c'est l'occasion unique de vraiment vous poser, de ne pas subir une thérapie, mais d'aller la choisir. Ça revient oui. À ce que je disais tout à l'heure sur la vie complète. Quand on choisit sa vie, même si on n'a pas d'enfant, pas de femme, pas de mari, si en tant qu'on choisit, c'est OK, tout va bien. Quand on subit, là, ça devient un problème.
Oui.
Et vous n'avez fait que subir toute votre vie.
Sans doute, oui.
Et aujourd'hui, il est temps de reprendre les rênes et de reprendre le contrôle de tout ça.
Oui.
Et de vous dire déjà vous-même que vous avez de la valeur. Et une fois encore, vous êtes devenu médecin, pédiatre, c'est pas rien. Vous avez accompagné des milliers d'enfants. C'est pas donné à tout le monde d'avoir fait ça.
C'est vrai.
Vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un de bien. Sauf qu'on vous l'a jamais dit.
En tout cas, pas souvent.
Mais oui. Promettez-moi vraiment que vous allez commencer une thérapie, que ce soit en hypnose ou en thérapie classique, ou les deux en même temps, pourquoi pas, ça fonctionne très bien en duo aussi. Hein.
Je ne vais pas vous dire que je vais essayer parce que vous n'aimez pas quand on dit ça.
Vous me connaissez bien, je vois. Je suis persuadée que, vous voyez, une fois que vous serez réparée, j'aime bien ce thème réparer parce que pour moi, c'est vraiment ça. On se soigne, on se répare. Vous serez extrêmement utile à des gens, mais ça vous fera du bien parce que vous ne serez plus dans ce besoin de reconnaissance, mais simplement dans l'envie de partager. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez des capacités dont on aura toujours besoin. Vous êtes encore jeune, vous aurez largement le temps d'aider plein de gens dans des structures différentes. Ou peut-être, il y a peut-être des choses qui vous viendront à l'esprit quand ça ira mieux. Mais plus dans ce besoin qu'on vous reconnaît, simplement dans l'envie de partager. Et ça sera tellement plus agréable.
Le problème, c'est que pour démarrer quelque chose, il faut de l'énergie.
Et oui.
Et l'énergie, pour moi, j'en ai pas.
Et vous savez pourquoi vous n'en avez pas? Parce qu'elle part dans la brèche, justement. Comme vous dites, il y a une brèche. Et tant que vous n'aurez pas réparé cette brèche, votre énergie, elle foutra le camp là-dedans, tout le temps. Et pour réparer la brèche, il faut arrêter de courir partout. Arrêtez de
fuir. J'espère que le médecin que je vais voir pourra me conseiller quelqu'un.
Et s'il ne peut pas, vous pourrez trouver tout seul quelqu'un, non?
Oui, j'espère, mais c'est difficile dans le secteur où je suis, il n'y en a pas beaucoup.
Dans quelle région êtes-vous? Dans quel coin êtes-vous?
En Seine-et-Marne.
Et pourquoi il y aurait moins de thérapeutes qu'ailleurs?
Parce que même au niveau des médecins, c'est une région où la densité médicale est catastrophique, ou en train de le devenir.
Et vous pouvez vous déplacer un petit peu ou pas du tout?
Bah oui.
Bon, donc vous pouvez élargir le champ de vos recherches peut-être. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que vraiment là, en même temps, j'ai l'impression que les graines sont déjà semées. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez identifié ce qui ne va pas.
J'ai fait une très très longue et très bonne très très lente mais très bonne psychothérapie en m'occupant de mes chats et en écoutant vos émissions.
Vous en avez combien?
Ça a fait germer beaucoup beaucoup de choses dans ma tête.
Ah bah tant mieux. Vous en avez combien des chats?
Là en ce moment, je viens d'en perdre une donc il m'en reste 15.
15?
Oui.
Oh là là, oui. Ça en fait des ronrons consolateurs tout ça.
Oui, en même temps, il y en a certains que j'ai été obligée de laisser dans des pièces où ils sont un peu enfermés, donc les ronrons consolateurs un peu moins.
Il y en a quand même certains qui sont près de vous, j'imagine.
Oui.
Mais oui. Mais là aussi, vous voyez, c'est un petit peu excessif. Vous en avez conscience.
Oui, mais bon, ça s'est fait comme ça, quoi.
Et oui, j'ai souvent eu des témoignages de gens comme ça qui ont mis le doigt là-dedans et qui ont après un peu dérapé, parce que le jour où il y a un problème, c'est compliqué à gérer, ça aussi, vous voyez. Ne vous en mettez
c'est
pas compliqué. Trop sur le dos, ben voilà.
C'est compliqué, ça demande du temps, ça demande plein de choses. Quoi.
Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie que vous n'avez pas en ce moment.
Oui.
Donc vraiment, 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 il est temps de vous réparer, Anne.
Oui.
De bien vous réparer, comme ça, votre énergie, elle restera en vous. Et vous pourrez la placer dans des choses qui vous feront du bien après. Parce que vous avez la possibilité, une fois que vous irez mieux, de faire des tas de choses qui vont être extrêmement agréables pour tout le monde. Vous apporterez du bien à des gens, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je suis persuadée que vous ferez quelque chose de formidable. Il peut y avoir des bouquins, il peut y avoir être consultante, il peut y avoir des réunions. Vous savez, je pensais c'était Sarah tout à l'heure sur les cafés, oui. Les cafés de la mort. Vous pourriez organiser des tas de choses comme ça autour de l'enfance. Et vous avez plein de compétences, plein de talents. Et je suis sûre qu'il y a des choses que vous pourriez échanger. Et l'échange est une source d'énergie aussi pour celui qui donne. Hein.
Oui.
Mais la première étape, c'est de vous réparer vous.
Oui. Bah, écoutez, on peut espérer que dans quelques temps, je pourrai vous rappeler pour vous raconter comment ça s'est passé.
J'espère bien. Vraiment. Comment je peux vous aider davantage, Anne? Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
M'indiquer quelqu'un de bien pour l'hypnose.
Alors, j'ai beaucoup de mal à faire ça, d'abord parce que je ne connais pas la Terre entière. Si vous saviez,
j'ai
70 demandes par jour, comme si je connaissais les hypnothérapeutes de la France entière, voire même de l'Europe.
Oui, je sais.
Et puis en plus, ce qui est compliqué, c'est que quelquefois, ça peut se passer très bien avec quelqu'un et pas bien avec quelqu'un d'autre.
Bien sûr. C'est trop individuel comme relation.
Mais j'aimerais quand même arriver à vous aider. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas raccrocher.
Oui.
Et vous allez, s'il vous plaît, laisser à c'est Nicolas ou Cindy qui prendra le relais. Laissez votre adresse mail.
D'accord.
Et je vais voir demain, je vais réfléchir demain si je peux vous orienter quand même vers quelqu'un ou suivre un peu tout ça quand même, parce que ça, je suis persuadée qu'il y a un tel potentiel en vous et que c'est trop dommage. C'est du gâchis tout ça pour l'instant. Et que tous ces gens qui vous ont maltraité ne méritent pas que vous leur fassiez ce plaisir-là de ne pas y arriver.
Merci.
Ah oh ben non, vous n'allez pas pleurer maintenant. On ne va pas se quitter en pleurant quand même.
Non, c'est... Je vais essayer.
Faites-moi un sourire.
Oh ben ça, je veux bien. Même si j'ai mouillé, je veux bien faire un sourire quand même.
Bon, je vous promets que je ne vous lâcherai pas, Anne. Je vous contacte par mail demain.
Oui.
Et je fais au mieux pour vous aider. D'accord ?
Et puis si ce n'est pas demain, ce n'est pas grave. Si c'est après-demain, c'est...
Non, non. Quand je m'engage à quelque chose, je le fais.
Oui, non, mais je veux dire, si vous avez besoin de temps pour trouver...
En tout cas, je vous tiens courant, je vous le promets. Je ne vous lâche pas, d'accord ?
Merci.
Ne raccrochez pas, Anne, je vous embrasse très fort.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Et merci pour votre émission, parce que vraiment, depuis un certain nombre de mois, elle m'a vraiment fait beaucoup de bien.
Bah, j'en suis ravie, merci beaucoup à vous, Anne. Ne quittez pas.
Merci.
La Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Myriam. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir Sabine. Merci beaucoup de me recevoir. Je vous présente tous mes meilleurs voeux, ainsi qu'à toutes les auditrices et les auditeurs. Voilà, enfin bon, moi je souhaite du bonheur pour tout le monde, pour toute la planète entière. Voilà.
Comme je dis souvent, je vous souhaite le meilleur et la force de surmonter le reste.
Et voilà, exactement, c'est très bien dit. Voilà. Bon, je commence.
Bien sûr, qu'est-ce qui vous amène alors?
Ben moi, c'était pour un témoignage, voilà. Un témoignage nous concernant, mon mari et moi. Bon, mon mari est couché, là, donc je suis toute seule pour raconter ça. Un témoignage concernant le parcours d'une adoption.
Adoption. Oui, j'en parlais tout à l'heure dans mon intro. Je trouvais qu'on n'en avait pas assez de témoignages là-dessus.
C'est pour ça. Et comme je crois qu'il y a quelques jours, il y a une personne qui vous a appelé pour vous raconter qu'elle avait été adoptée, que c'était assez compliqué, vous voyez, que sa maman l'avait... Enfin, je ne sais pas si elle avait accouché sous X.
C'était pas avec moi, ça.
Ah, c'est une autre émission.
Non, c'était peut-être... Je ne sais pas, on a eu une hécatombe de Covid ici, on a eu des remplaçants.
C'est pas grave, je me mélange les pinceaux, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous parler de mon histoire, de la mienne, que je trouve... Qui m'a transformée. Mais voilà, moi, lorsque j'ai rencontré mon mari, c'était dans les années 60. J'ai 79 ans, je suis donc grand-mère. Hein. Mmh. Et j'avais 20 ans. Enfin, nous nous sommes mariés à 20 ans et demi. On s'était donc connus vers 18 ans. Et puis mon mari était déjà militaire, appelé. Hein. Enfin... service militaire.
Et oui, à l'époque, c'était 18 ans, service militaire. Enfin, oui, c'était ça. Ouais.
Oui, voilà. Donc, on s'est rencontrés par hasard. Moi, j'habitais Marseille. Lui, il habitait dans le sud-ouest, plus pays catalan. Et moi, je revenais d'un voyage sur Bordeaux. Et j'étais très jeune et on s'est rencontrés là, bon voilà, enfin, en gare de Toulouse.
Dans la gare
dans un train après.
Ah oui,
hein.
D'accord.
Voilà, donc on a discuté, tout ça, et ce qui ça m'intéressait parce que c'était en pleine période de guerre d'Algérie, enfin je prononce bien le mot guerre, hein. Et moi étant d'origine algérienne, bon j'avais, je sais pas, il n'avait pas remarqué, pourtant je suis brune aux yeux bleus. Je suis une brune bien marquée, bien méditerranéenne, mais bon, je n'avais pas réalisé que j'étais d'origine algérienne. Et mais voilà, on a discuté, tout ça, et puis il m'a donné, ben lui, il descend parce que je ne sais plus où il allait, et chez lui, je pense, en permission, et moi. Et on échange nos adresses, voilà. Donc, ben, bien sûr, il m'a écrit, je lui ai répondu, et il est venu me voir à Marseille, parce qu'il avait une permission, tout ça, mais moi, je pouvais toujours pas, c'était toujours en cachette que je le voyais, hein, et puis je finissais mes études.
Mais oui, vous savez, Myriam, vous parlez d'un temps que les jeunes ne peuvent pas comprendre, où il
n'y
avait,
voilà,
avait pas de téléphone portable et on s'écrivait, voilà, quand on se rencontrait.
Et en plus, on s'écrivait, puis en plus, je faisais adresser mes lettres chez une copine.
Et oui, il ne fallait pas que les parents
sachent. Oui, parce qu'on élève les... Bon, mon papa, mes parents étaient quand même des gens formidables. Nous étions... Moi, j'étais la sixième de 8 enfants. Mais néanmoins, les filles, quand même, on les surveillait plus que les garçons. J'avais 5 frères. Hein. Les filles, ben, il fallait mettre une demi-heure pour aller à l'école et pas 5 minutes de plus, quoi, vous voyez.
Mais ça, le coup des lettres envoyées chez une copine, je crois que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens.
Oui. Ah ben, il n'y avait pas d'autre solution.
Et oui.
Il
n'y
avait pas d'autre solution, voilà.
Et on attendait fébrilement le facteur.
Alors là, oui, et puis comme la copine, je la voyais tous les jours, donc voilà, c'était... Bon, c'était super bien. Voilà, alors je vais quand même aller vite, hein, sinon je suis assez bavarde. Donc voilà, bon, ben effectivement, on a entretenu une correspondance. Il et moi, ben en plus, je payais pas le train. Enfin bref, voilà. Je réussissais avec l'aide de mes frères à faire quelques petits allers-retours, Marseille-Perpignan. Et puis voilà que ben on l'appelle. Son frère était donc maintenu sous les drapeaux en Algérie. Je ne veux pas ennuyer les téléspectateurs avec ce problème-là, mais pour vous dire, son frère est rentré et 15 jours après, c'est donc comment je vais l'appeler ? C'est donc Julien qui est parti appelé sous les drapeaux en Algérie. Catastrophe.
Ah oui, j'imagine.
Donc, et ça, j'étais pas capable d'en parler à mes parents. Pas capable du tout. Alors que tout se passait bien, hein, avec mes parents, c'est-à-dire, bien sûr, et puis j'étais quand même assez amoureuse de ce garçon, quoi, voilà.
Il ne savait pas du tout qu'il y avait une relation.
Qui ?
Vos parents.
Mes parents ? Non, non.
Ils s'en doutaient même pas ? Non.
Ben non, comme il n'habitait pas la ville.
Oui, mais quand on voit sa fille changer quand même, on voit des choses.
Oui, ben oui, mais quand il s'en est rendu compte, figurez-vous que j'ai eu interdiction d'écrire et tout ce qui s'ensuit.
Oh
hein. Alors, je me débrouillais bien. Hein. Il fallait que je me débrouille parce que je suis d'un tempérament volontaire. Bref, bon, et puis c'est vrai qu'il y avait des problèmes. Excusez-moi, c'est un balai. J'ai une petite chatte, moi j'en ai qu'une, et elle s'appelle Bella. Hein, voilà.
Bella, bonsoir Bella.
Voilà, dans la famille, nous avons des chats. Bon, bref, alors je vais passer. Bon, ça a été une période très dure où je lui écrivais tous les jours. Et là, je lui ai quand même fait part des préoccupations que j'avais par rapport à cette rencontre, que je ne savais pas comment faire pour présenter à mes parents, tout ça et tout. Bon, bref. Il est resté quand même maintenu sous les drapeaux presque 18 mois, je crois, c'est long. Hein,
ça a dû vous paraître interminable.
Oui, tous les jours j'écrivais, tous les jours. Et on ne sait pas que sont devenues les lettres. Hein. Et moi, pareil, les miennes, parce que quand on envoie le courrier, lui, non, il n'a pas le même problème, c'était les miennes, bon, parce qu'il était à l'armée, quoi, donc je ne sais pas, enfin, bon, je ne sais pas. Moi, parce qu'après, mon ami, sa maman est décédée. Enfin, bref, voilà. Bon, voilà. Donc, il est rentré quand même. Et à ce moment-là, bon, je prends la décision d'en parler à mes parents. Bon, ça a été assez hard. Donc, j'ai dit à mon père, puisque c'est comme ça, je travaille, je gagne ma vie, ben, tu ne veux pas le voir, ben, tant pis pour toi.
Qu'est-ce qui leur déplaisait à vos parents ?
Parce qu'il était français.
Ah, d'accord, ce n'était pas une question d'âge, c'est une question d'origine.
Non, on avait à peu près 3 ans de différence.
D'accord.
Non, c'était, uniquement ça, il n'avait rien d'autre. Je lui dis, mais pourquoi tu nous as élevés d'une façon, tu es un progressiste, un syndicaliste, tu t'intéresses à la politique, tu nous as envoyés faire des études et tout ça. Maintenant, alors il me dit, non, c'est pas parce que c'est un, c'est parce que c'est un Français, mais jamais il sera accepté par la famille, jamais. J'ai dit oui, mais les traditions, vous savez, voilà, puis c'était, il faut se remettre à l'époque, hein, c'était 62, quoi, 63. Hein. Bon, enfin bref, je vous passe. On a fini par obtenir qu'un de gosse, enfin moi. Donc après, ça a été difficile, mais nous y sommes arrivés. Donc, alors du coup, mon père, bien sûr, il fallait qu'on se marie, quoi, le plus rapidement possible. Donc j'avais 20 ans et demi, nous sommes mariés. Donc moi, j'ai fait la connaissance de ma belle-famille.
Comment avez-vous été accueillie ?
Très bien.
Ah, bon, ça c'est bien.
Très bien. Ouais. Mais je n'avais pas de belle-mère, elle était décédée. Elle est décédée très jeune, à l'âge de 37 ans, et elle a laissé 5 garçons.
Oh là là.
La vie est injuste, hein. Ouais. Il est né avec 14 ans, et le plus jeune, 2 ans et demi.
Oh,
d'une leucémie, ouais, voilà. Ouais. Donc, j'avais des atomes crochus avec cette belle-mère que je ne connaissais pas parce que elle faisait partie d'une association de femmes à laquelle ma mère justement était aussi adhérente parce que c'était pour mon parce qu'elle parlait pas un mot de français, maman. Elle est toujours actuellement, elle est décédée, analphabète. Ça lui donnait une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, vous voyez. Donc, elle voyait, bon, voilà.
C'est drôle qu'il y ait ce lien entre vos deux familles, comme ça, finalement.
Ben, ouais. Et ça a fait... c'était le début que je l'ai su. Et ça a fait un déclic. Et ma belle-mère était déjà décédée. Et mon mari m'a montré à l'occasion d'un week-end chez lui, parce qu'il travaillait sur Paris, voilà. Il a ramené la vie de décès, et effectivement, de sa maman...
La vie de décès, pardon, oui, je n'ai pas compris.
Un avis, oui, excusez-moi mon accent. Hein, un avis,
non, il adora votre accent.
Il est mélangé, là, entre Marseille et ici.
Donc, il vous ramène la vie de décès de sa maman.
Oui, et bien justement, on parlait, l'association avait donc envoyé un avis qui passait dans le journal local, tout ça. Et je l'ai d'ailleurs là pour qu'il soit transmis à ma fille, mes petits-enfants. Bon, donc ça fait un déclic, voilà. Ma famille a très bien reçu la famille de mon mari. Notre mariage s'est passé à Marseille, mairie de Marseille. La famille de mon mari est venue. Je les avais déjà rencontrés auparavant, et un petit beau-frère, tout ça. Mais donc, tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Mon mari travaillait à Paris, moi j'avais commencé un job sur Marseille, je me suis fait muter le siège social, mais j'ai eu vraiment du bol, qui était à Paris, voilà, nous sommes installés, on s'est bien mariés, mon mari travaillait typographe, hein, donc dans une imprimerie, et avec plein de copains, tout ça, bon, on avait le même âge, nos enfants, enfin, c'est après les enfants, hein. Donc, avec lesquels nous gardons encore des liens actuellement, là, avec l'âge que j'ai, vous voyez. Et donc, les années passent, boulot, métro, dodo, voilà. Mm-hmm. Et puis, on faisait des projets pour avoir un enfant. Donc, cet enfant, il venait pas. Donc, consultation médicale, gynéco, tout ça, tout. Mais bon, à l'époque, vous voyez, les années... 63,
et oui, les investigations n'étaient pas les mêmes. Ouais.
Non, du tout. Et puis, j'ai eu droit même à une intervention chirurgicale. Bon, bref, on a cru que si, que ça. Je passe sur les détails, hein, évidemment. Mmh. Et puis, un beau jour, j'en ai eu ras-le-bol. Mon mari m'a dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je crois que j'ai une très belle idée. J'ai dit, ouais, comme moi, on adopte un enfant. On va faire une demande d'adoption. Donc, on a écrit, bien sûr, un peu de partout.
Quel âge vous aviez à ce moment-là, quand vous avez commencé la démarche?
On était très jeunes, 25 ans.
D'accord, c'est un sacré signe de maturité que, à la fois, tous les deux partenaires soient d'accord directement pour ça, parce que il faut être costaud. Hein.
Que je vais vous expliquer, dans tout ce qui était association privée, c'était négatif. Bon,
pourquoi?
Et bon, parce qu'il y avait trop de demandes. Il y avait plus de demandes que d'enfants à adopter, paraît-il. Ah. Voilà. Après, même l'assistance publique nous a répondu en nous disant que des enfants de type européen, il n'y en avait pas pour l'instant. En revanche, des enfants dits typés, c'était possible. On se met toujours dans ce contexte de ces années-là. Hein. Mmh. Moi, je suis restée, mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je n'étais pas au courant, les enfants dits typés. Donc, je téléphone, il y avait un numéro de téléphone, la lettre que je reçois de l'assistance publique, et je dis, mais dans les enfants dits typés, qu'est-ce que vous entendez par là? On me dit, les enfants noirs, et puis des enfants avec des origines maghrébines. Ah, j'ai dit, donc ça, si nous formulons notre demande dans ce sens-là, avoir un enfant dit typé, on m'en dit, là, vous avez beaucoup plus de chances, donc présentez-nous un dossier. Et nous, comme ça correspondait un peu, si vous voulez, nous sommes un couple mixte, on a balancé notre dossier. Mmh. Alors voilà, les conditions à l'époque, il fallait que nous soyons mariés depuis 5 ans, c'est pour ça que je vous dis 25 ans, et que l'un des deux conjoints ait plus de 30 ans. Voilà, donc là, nous avons patienté un petit peu. Et dès que mon mari a eu ses 30 ans, peut-être 6 mois avant, on a fait notre demande d'adoption. Et en précisant nos origines, et en disant que nous souhaitions, on n'avait pas, j'aurais aimé, à l'époque, un petit garçon, mais quel que soit le sexe,
Donc, vous aviez une préférence pour l'âge ou pas du tout?
Je préférais un petit enfant quand même, oui. Comme nous étions très jeunes, vous voyez, alors on a fait, on a accompli toutes les formalités qu'on nous a demandées, c'est énorme, et on passe devant un psychiatre également, consultation psychiatrique. Donc, il était formidable, ce psychiatre. Il m'a dit, mais c'est pas possible, c'est super, parce que les deux prénoms, en plus, c'est rigolo, mais je peux pas vous, ou hors antenne, mais je peux pas vous les donner de mon mari et de moi. Donc, c'était rigolo, quoi. Et il y a un lien avec la Bible, on va dire. Et donc, mais en plus, nous n'étions pas croyants. Voilà, c'est pour ça que c'était rigolo aussi. Et donc, le psychiatre emballé, il a donné son accord, tout ça, parce qu'il dit effectivement. L'enfant, si mère française de père algérien, ça sera l'inverse de votre couple, mais c'est bien pour les racines, ici et là, il pourrait peut-être aller en Algérie.
Oui, tous les voyants étaient ouverts à ce moment-là.
Ouais. Tout était ouvert. Et on a reçu la lettre rapidement, donc, puisque lorsque nous l'avons eue, alors une petite fille, moi, j'avais 28 ans et mon mari 31 ans. Et c'est ce qui avait emballé le psychiatre, c'était notre âge. Il nous a dit, c'est formidable de vous décider jeune comme ça, parce que beaucoup de personnes attendent trop longtemps, beaucoup de couples âgés demandent.
Oui, c'est vrai que la moyenne d'âge des gens qui adoptent, c'est plus que ça.
Ouais, voilà. Mmh. Et écoutez, ça a joué en notre faveur, en définitive, voilà. Donc, bonjour, on nous a présenté, on nous a envoyé une photo. Donc, la première fois que nous avons fait connaissance avec notre petit bébé, notre petite fille, c'était par une photo.
Elle avait quel âge à ce moment-là,
Elle avait 5 mois par là, 5 mois. Parce que elle a eu un souci. Elle avait un frère jumeau. Alors, c'est un accouchement sous X. Un frère jumeau avec le frère est mort-né à la naissance. Donc, ils ont un peu attendu. On aurait dû l'avoir plus tôt. Mais il fallait qu'on lui fasse plein d'examens, les électroencéphalogrammes, tout pour être sûr
qu'elle aille bien.
qu'elle aille bien.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant sa photo la première fois?
C'est un des plus beaux jours de ma vie. J'en avais vu des naissances avec mes frères, ma sœur surtout, qui a eu 3 filles. C'est comment je ne peux pas vous expliquer. C'est comme si... je ne vais pas dire que je l'avais mise au monde, mais oui, j'ai eu la même joie.
L'avez aimée tout de suite?
Tout de suite. Et le remords que j'ai, c'est que quand... Alors, nous sommes allés la voir après dans une pouponnière. À l'époque, nous étions à Paris, de la région parisienne. Et on aurait cru qu'elle nous attendait. Elle était droite dans... Alors, ça fait quelque chose à la pouponnière. Il y a 4 ou 5 lits dans la même... dans le même petit dortoir, quoi, tout ça. Mais elle nous a regardés, mon mari et moi. Et puis, après, quand on l'a prise, on nous l'a mis dans nos bras, dans le jardin, là, elle a un petit peu pleuré. Bon, bref, et puis elle avait un petit copain qui s'appelait Henri, qui était noir. Et voilà, donc, nous, on avait amené un petit doudou pour notre fille, hein, voilà, parce que c'est notre fille. Et quand on a vu son petit copain, Henri, qui allait rester là, qui allait certainement avoir moins de chance qu'elle, enfin, le jour où nous y étions, peut-être que depuis, hein, mais bon, j'ai laissé le doudou au petit Henri, ouais, qui marche à 4 pattes. Là. Et puis, nous étions venus avec des amis ce jour-là, et moi, j'étais à l'arrière avec mon mari, et tout le long du trajet, elle a pris mon annuaire dans sa petite main, vous voyez. Tout le long, elle a fermé sa main, comme ça.
Elle vous a adopté?
Tout de suite. Et moins mon mari, parce que c'est l'aide sociale à l'enfance, bon, je vais garder le même nom. Il n'y avait pas beaucoup de personnel masculin.
Elle n'avait pas l'habitude.
Ouais, elle n'avait pas l'habitude de voir des hommes, vous voyez. Puis bon, mon mari, il est grand, 1m82, tout ça, il est brun, enfin
il
bref.
Il a une grosse voix, c'est bizarre. C'est quoi cette chose?
En plus, oui, c'est un peu la voix, vous savez, on roule les R, quoi. Mais bon, elle a mis, on va dire, moi, ça a été... Et puis après, ça a été, si vous voulez... comment dire, c'était la destination idéale pour les copains et les copines de venir chez nous. Vous voyez, tout le monde. Moi, j'avais beaucoup de familles éclatées. Et enfin, bref. Mon mari, elle a mis à peu près un mois. Mais alors, après, le jour où elle l'a accepté, ça a été un truc, une fusion, un truc de terrible.
Donc, c'est une adoption qui s'est très bien passée, de ce que j'entends.
Voilà, c'est une très belle... je vais aller plus rapidement. Ça s'est très bien passé. Aucun problème avec l'assistance sociale, tout ça. On a cherché un appartement plus grand, voilà, pour qu'elle ait vraiment sa chambre. Mieux, on va dire. Bon, on était bien installés où nous étions. Mais bon, on pouvait se permettre... d'avoir une salle louée avec une chambre de plus, voilà. Et donc, bien sûr, j'ai envoyé des faire part à toute la famille, y compris celle, à l'époque, ma mère était repartie vivre en Algérie, enfin bref. Et donc, lorsque je l'ai scolarisée, parce que je ne pouvais pas la mettre ni à la crèche, ni avec une nounou, c'était l'école ou rien d'autre, hein. Donc, ils étaient assez sévères, là, l'assistance publique. Et je travaillais. Puis, j'avais un bon emploi, en plus. Hein. Voilà, à l'époque, j'avais vraiment un bon emploi. J'étais agent de maîtrise d'une entreprise. J'étais assistante juridique. Bon, voilà. Mon mari, on bossait tous les deux. Mais on s'est très, très bien organisé. Donc, nous l'avons scolarisé à l'âge de 2 ans, c'est vrai. Mais après, il s'est trouvé que... l'école l'a fatiguée de trop parce qu'elle était très turbulente, hein, voilà, elle était hyper active. Donc, on a pris une décision, on l'a mise à mi-temps à l'école maternelle et moi, j'ai pris mon travail à mi-temps et mon employeur a été super sympa. De mon travail à mi-temps, il m'a payé 3/4 de mon salaire. Donc,
Ah ouais, ils ont, parce qu'ils étaient, ils m'ont connu jeune, ils étaient émus, quoi, voilà. Ça, donc, notre situation, ils avaient, voilà.
On n'a plus énormément de temps, Myriam, donc j'aimerais bien que vous avanciez un petit peu dans le... dans la suite, comment s'est passée l'enfance de cette petite fille?
Alors, voilà, ben, très bien, justement, quand j'allais la chercher à l'école maternelle, elle poussait les enfants, « Non, c'est pas ta maman, c'est la mienne », comme ça. Elle me donnait la main, tout ça. Bon, alors je vais, voilà. Ça, c'est, elle a eu une adolescence un peu, ben, c'est un peu les années, hein, les années 70, 80, 85. Bon, elle est allée, bon, enfin, c'est bon. On va dire que...
Une adolescence, quoi.
Voilà. Une adolescence, voilà. Ouais, voilà, tout à fait. Et bon, elle a suivi, elle a fait, elle est allée au bac, elle est allée, elle a fait juste une, comment on appelle ça? Elle voulait faire langues étrangères appliquées parce qu'elle était très douée pour les langues vivantes.
Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle posait des questions sur ça, sur son origine?
Alors voilà, c'est ça. Nous, on lui a toujours tout dit. Il n'y a jamais eu de choc révélateur.
Oui.
Je ne sais pas, je pourrais dire, à 5 mois, quand je lui parlais, je lui disais, enfin, quand on l'a eu, voilà, ta maman. Alors, la maman était très jeune.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Vous saviez des choses sur sa mère biologique?
Rien, ou... du tout. Rien du tout. Alors, on n'a jamais rien su. Rien, on n'a jamais cherché à savoir. Et ma fille, alors on va dire en grandissant, parce que bon, elle a eu 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle savait, elle a toujours su qu'elle était une enfant adoptée, et elle n'a jamais souhaité en savoir plus.
D'accord.
Elle n'a jamais souhaité en savoir plus, elle n'a pas voulu. On, nous, nous lui avons dit ce que nous savions, c'est tout, que la maman était jeune, que les origines de France et que le papa était d'origine algérienne, voilà. Eh bien, rien. Et moi, elle nous a toujours dit, mes parents, c'est vous. Je vois pas, j'ai une enfance heureuse, j'ai été choyée, c'est vrai, on partait le week-end aller avec le comité d'entreprise, on allait faire du ski. Ah oui, ce qu'on a fait aussi, un premier voyage à 18 mois, pour la présenter, je l'ai emmenée en Algérie. Alors là, bon, c'était dur pour les papiers, mais enfin, pas dur par rapport à... avec l'assistance publique, quoi. Mais ils m'ont autorisé à l'emmener en Algérie. Je tenais beaucoup à ce que ma mère et mes frères...
Tout le monde la rencontre.
Parce qu'ils étaient repartis là-bas, ou après l'indépendance, voilà, il y a eu un retour.
Mais dites-moi, si ça s'est si bien passé que ça, ça ne vous a pas donné envie d'en adopter un deuxième?
Eh bien, elle ne voulait pas, voilà.
Ah!
Elle était très... comment dire?
Possessive.
Il y avait une forme, une forme de jalousie. Elle s'entendait très bien avec ses cousins, ses cousines. Tout le monde l'a adoptée, tout ça. Parce qu'on a été témoin d'un grave tremblement de terre en Algérie, un été qu'on est, nous y étions en vacances. Et puis je lui dis, tiens, ben, elle avait 12 ans, là. 12-13 ans. Je lui dis, est-ce que on peut faire une demande? Quoique ça aurait été très difficile en Algérie d'en adopter un. Non, elle s'est mise à pleurer. Elle n'a pas voulu, donc... Je n'ai plus insisté, quoi, voilà. Donc, j'ai laissé. Après, on a redemandé peut-être encore une autre fois. Donc, j'ai dit non, les choses se passent bien comme ça, voilà. Donc, ben, elle-même, après, a rencontré, bon, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Elle s'est mariée, enfin, bref. Et, bon, elle a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Mmh. Bon, il y a eu le divorce, malheureusement.
Mais en tout cas, ce que j'entends là, c'est que le fait d'avoir été adoptée n'a rien changé à son parcours de vie. Elle est parfaitement heureuse, elle a réussi.
Elle a trouvé
sa place sans aucun souci. Hein.
Ouais, voilà. Vous voyez, elle a 51 ans. Donc, j'ai une petite fille de 23 ans. Donc, elle nous a donné... Vous voyez, maintenant... elle a eu 2 enfants, vous voyez, en revanche. Et le garçon a 20 ans. Donc tout ça, quand nous on est arrivé à l'âge de la retraite, et puis elle nous dit, ben écoutez, si vous voulez redescendre dans le midi, dans le sud, ben je vous suis. Elle avait un très bon travail. Eh bien, nous avons fait qu'un seul déménagement, donc on a cohabité. Moi, j'étais allée un petit peu auparavant pour retrouver quand même une grande maison, qui a 3 générations. Hein. Il y avait des jours où ça se passait bien, des jours où ça se passait mal, avec les petits enfants, bien sûr. Et puis, bon, après, ma fille a trouvé à s'installer, bon, voilà, son logement. Après, elle a trouvé un job, mais avec ses langues étrangères, un job d'une entreprise qu'il y a dans la région. Et la vie continue, voilà, la vie continue.
Et vous vivez encore tous ensemble, les 3 générations?
Non.
Non, c'est fini.
Mais elle nous a suivi, non, mais on est à côté.
Ah, c'est sympa,
mais,
ça.
Non, mais voyez, on est à côté, mais on n'est pas les uns sur les autres. On s'est occupé des enfants aussi, hein. L'école, les devoirs, tout ça. Ça
c'est formidable. Ça, il fallait elle a changé beaucoup de choses, cette fille, ce bébé, finalement, cette petite fille abandonnée. Oui. Dites-moi, il y a une question un peu intime que je me pose, Myriam, oui, c'est que quand le dossier d'adoption a été lancé, quand vous l'avez eu, est-ce que vous avez quand même continué à essayer de faire un enfant naturellement?
Non.
Non, vous avez laissé tomber?
Ouais, non.
Parce que ça arrive souvent, ça, dans les histoires de couple, hein. Une fois que l'adoption est lancée, comme par hasard, le corps se débloque, on arrive à avoir un enfant inattendu.
Oui, non, mais je pense que peut-être que nous avions des problèmes tous les deux. Je pense quand nous avons fait des investigations plus complètes, parce qu'au départ, bien sûr, c'est toujours la femme que l'on ausculte tout ça. On pense toujours que ça vient de la femme.
À l'époque, maintenant, heureusement, maintenant moins.
Oui, à l'époque, hein, je vous parle de l'époque. Mais quand même, après, il y a eu quand même un médecin qui a dit que peut-être, effectivement, il y avait un souci du côté de mon mari. Et un truc un peu... Bon, je ne peux pas trop vous en parler. Pas grave, mais bête, quoi, un truc.
Je me posais juste la question, parce que c'est tellement fréquent dans les couples que finalement, un autre enfant arrive.
Je ne peux pas vous parler, non, je ne peux pas vous parler de l'antenne.
Non, vous ne vous inquiétez pas. Vous voyez comme la vie est belle. Quelque part sur Terre, il y a une petite fille qui perd son frère jumeau, qui est abandonnée, toute seule dans un orphelinat, à l'autre bout de la Terre, en tout cas, sur un autre endroit, il y a un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant.
Ouais.
Et il y a une rencontre magique qui se fait, qui change la vie de tout le monde.
Et en plus, je vais vous dire, c'est pas bon... Elle est magnifique. Enfin, quand on l'a vue, quand elle a bébé, petite fille, tout ça, on n'avait que des compliments. Elle était très, très belle. Elle avait un visage...
C'est la plus belle du monde, évidemment, en toute objectivité.
Oui, ben oui, non, mais puis elle a deux enfants, là, je vous assure. Alors, ceux-là, ils sont très beaux, tout le monde nous le dit. On dit, mais ben voilà, on a eu... voilà, ben après, ça donne pas tout, hein, parce que... ça donne pas tout, mais malgré ça, moi je me suis aussi intéressée à beaucoup de choses. On l'a ouvert parce que bon, moi je suis dans une association là actuellement, j'y ai toujours été parce que cette association de femmes dont je vous parlais là, moi elle a changé de nom, j'y ai toujours été, j'y suis toujours.
Comment elle s'appelle cette association?
Je peux pas le dire.
Ah, vous voulez pas le dire? Je pensais qu'au contraire vous souhaitiez en parler.
Tout le monde me reconnaît.
Bon, d'accord. Alors, on arrête là. On n'en parle pas. Donc,
voilà,
bref, qu'est-ce que vous souhaitiez me dire alors? Que vous êtes toujours dans une association et...
Et que... Voilà, parce que, après, les enfants grandissent. Parce que maintenant, je les vois plus 20 ans et 23 ans. Donc, c'est-à-dire que je les ai élevés aussi avec une ouverture d'esprit, quoi, sur... par rapport à ce qui se passe actuellement de partout dans le monde, tout ça. Enfin, ils ont eu une éducation, je pense, réussie, quoi. Et on est... Enfin, ma vie a été embellie. Ma vie a été très, très, très heureuse. J'ai eu des drames très graves dans ma famille, hein. J'ai eu des deuils,
des épreuves, très
douloureux. Mais ça a été une réussite, ce point-là, quoi. Voilà, ça a été une réussite. Ça a été une réussite. Et c'est... Je suis Mamouna, son papoupette, voilà, son papa, voilà. Alors, on n'est pas... Attendez, hein, on se chamaille. Elle est une fille et une mère... C'est
oui,
pas
mais ça,
toujours...
c'est normal. Et heureusement, c'est ça.
Ouais, ah oui, Et puis des fois, on n'est pas toujours d'accord, tout ça. Avec les enfants, là, on pique des crises, avec le garçon, enfin, tout ça. Mais elle, je vois qu'elle est elle-même, elle ne sait pas comment, des fois, s'y prendre. Mais le fait que... Et ça, moi, comment je voulais vous dire? Je ne suis pas arrivée à le comprendre. Pourquoi elle ne voulait pas faire des recherches sur ses origines. Parce que je l'aurais fait.
Oui, mais vous savez, chacun, c'est très intime, ça. Si elle n'a pas ressenti le besoin, c'est qu'elle était bien dans ses baskets aussi. Hein.
Elle n'a jamais voulu.
Ça, ça peut venir plus tard ou jamais.
Ouais.
C'est pas systématique. Alors, quelquefois, on ressent un manque, un vide, et on a besoin de le combler. Quelquefois, on est très bien comme ça, et on n'a pas envie de savoir. Et c'est très bien aussi. Ça se respecte. Ouais. Ça se respecte.
Et d'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, ton dossier d'adoption... pouf, elle ne l'a même jamais ouvert. Je lui dis, là, maintenant, on commence à ranger nos papiers, tout ça, voilà, tu le prends quand tu veux, tu peux le prendre chez toi. D'ailleurs, je préférerais même qu'il soit chez toi. Voilà, tu verras un peu.
Elle est libre de le faire ou pas, c'est son choix.
Voilà, j'ai dit, t'en fais ce que tu veux, voilà. Tu veux ou tu le montres à ta petite fille, voilà, tu fais, c'est toi qui décideras. Je vois que c'est l'heure, hein. Donc,
exactement, Myriam, vous le sentez. Et puis, je voulais vous dire vraiment merci, parce que c'est une belle histoire pleine d'amour, comme je les aime.
Voilà, c'est...
Et ça fait du bien d'entendre aussi des témoignages comme ça.
Ben oui, d'autant que, puis par rapport aux problèmes identitaires, parce que moi, je suis impliquée, vous voyez, par rapport au racisme ici et là. Oui, on peut s'entendre,
Merci
oui,
beaucoup.
Merci,
Myriam.
Une Française, un Français peut vivre avec une Algérienne, oui, voilà.
Hein, et un enfant adopté peut apporter plein d'amour à ses parents. Et inversement.
Voilà, tout à fait.
Je vous embrasse du fond du cœur, Myriam.
Aussi,
merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.
Bonne nuit plutôt.
Merci.
Bonne nuit. Au revoir.
La Libre Antenne se termine en douceur. Merci à tous d'avoir été là, d'un côté ou de l'autre du poste. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez avec beaucoup de plaisir, je le sais, à 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, on reste en contact sur ma page Facebook, Sabine Marin Public. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Ne t'inquiète pas si les gens ne t'aiment pas. La plupart ne s'aiment pas eux-mêmes. Passez une bonne nuit.